إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم في الدنيا والأخرى، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، ما زلنا مع كتاب منهج السالكين وشرحه لشيخ سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله، وفي كتاب الحج. ما هو تعريف الحج؟ C'est quoi la définition du pèlerinage, les frères? Qu'est-ce que le pèlerinage? Qu'est-ce que le pèlerinage? C'est l'un des piliers de l'islam. C'est un pilier de l'islam. Ah, ça hein? Ça va.
C'est un acte d'adoration qui consiste à effectuer la visite en accomplissant des.
La visite de quoi?
La visite de la maison sacrée, Allah, en accomplissant des rites de manière spécifique.
Dans une période
déterminée.
Voilà. Alors, ça définition du pèlerinage. Naam. Huwa ta'abbud lillah, tabarak wa ta'ala. Bi qasd al-bayt al-haram. Li a'mal مخصوصة في زمان مخصوص. D'accord. Donc on répète, le pèlerinage, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr une adoration à Allah tabaraka wa ta'ala à travers le fait de se rendre à la maison sacrée d'Allah pour faire des actes spécifiques et dans une période spécifique. D'accord. Donc certes, c'est un pilier de l'islam, mais c'est trop vague l'islam. Wa qulna anna wujubahu 'ala al-fawr bima'na anna man tawaffarat fihi shurut wujub al-hajj fa wajaba 'alayhi an yahujj. On a dit que as-sahih c'est que le pèlerinage est obligatoire dès que les conditions sont réunies, c'est-à-dire les conditions de l'obligation. Si par exemple cette année, tu as toutes les conditions qui sont réunies, pour ceux bien sûr qui n'ont jamais fait le hajj, toutes les conditions qui sont réunies, eh bien, tu es dans l'obligation de faire le pèlerinage cette année. Tu ne peux pas attendre l'année d'après ou plus tard. Tu n'as pas le droit. Wa hada wa sahih, Allah ta'ala a'lam. C'est quoi les conditions, justement, de l'obligation du pèlerinage? Ouais, la première.
L'islam.
Fain d'Ahman. L'aql, on ne l'a pas cité. Mais j'ai un peu rentré dedans. Hein. On avait dit. Al-Bulugh. La puberté. Al-Bulugh. Abdallah. أحسنت الحرية الليبرتي فتحي يغست لي كونديسيون
pour
que le hajj soit obligatoire.
Ah, pour
l'islam. Hassan Amn al-Tariq, la sécurité du chemin, de la route, du trajet. Enfin La
santé.
La santé. La santé. Non, il n'y a pas que la santé. Mais la santé, ça rentre dedans aussi, la santé. Ça rentre dans la, madame, la liste d'état.
Les moyens.
Voilà. La capacité. Que ce soit la santé ou les moyens financiers, matériels. Avoir une monture pour s'y rendre. Zed, les provisions.
Les aides aussi de
voilà.
De
donc, nafaqa, les ahl, la yel, tout ce qu'ils dépensent dont ta famille a besoin. Donc, tu ne les laisses pas sans rien. D'accord, tu dois avoir assez d'argent pour partir, mais pour aussi laisser à ta famille de quoi manger, de quoi vivre. Celui aussi qui a de quoi rembourser ses dettes avant de partir aussi. D'accord ? Tout ça rentre dans l'istita'a. Et pour la femme, qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Pour la femme qui doit voyager, un mahram. D'accord ? Donc la femme qui n'a pas de mahram, avec qui voyager pour faire le hajj, elle n'est pas dans l'obligation de faire le hajj. D'accord ? C'est tout. Après, celle qui habite à Mecca, elle n'a pas de voyage. Donc elle peut faire le pèlerinage toute seule, parce que ce n'est pas un voyage, à la base.
Donc, si tu es marié et que tu as déjà fait le hajj, et que tu as l'argent pour le faire, tu dois le faire faire à ta femme. Tu ne l'as pas fait.
C'est-à-dire que tu dois le faire faire. Ta femme, si elle a les moyens de le faire, elle doit le faire. Okay. Si elle a un mahram, elle doit le faire. Si elle a toutes les conditions réunies.
Elle la femme, pas le mari. Oui.
Totalement. La femme.
Admettons, l'homme, il a déjà fait le hajj. Il est marié, sa femme ne l'a pas fait. Donc il a les moyens, il lui fait faire.
Si.
Dans l'année.
Si, il veut lui offrir un pèlerinage. Alhamdulillah. Mais il n'est pas dans l'obligation, non.
Ok.
Lui son, obligation, lui, son obligation, c'est de la nourrir, la loger, l'habiller. Okay. Mais il n'est pas d'obligation de payer un pèlerinage.
Du coup, le hajj pour elle, c'est de.
Tant qu'elle n'a pas les moyens.
Ses propres moyens, elle.
Chauffe. C'est les mêmes conditions que l'homme. L'islam, la puberté, la liberté, la sécurité, la capacité.
D'accord.
Et il rentre dans la capacité, le fait qu'elle ait les moyens financiers.
C'est l'homme qui subit en besoin de la femme, en fait. C'est pour ça que je demande ça.
Là. L'homme, il la nourrit, il habille, il la loge. C'est ça les obligations de l'homme pour la femme.
Ça, c'est la même condition de la mariage.
Ça, c'est autre chose.
Ok.
Ça, c'est autre chose. De là. T'as vu ? Non. طيب الآن إن شاء الله ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله حديثا فيه أحكام الحج إن شاء الله تعالى وهو حديث طويل وذكر الشيخ مختصرا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج قال الشيخ ساق المؤلف حديث جابر مع طوله لأن فيه وصفا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم كلها طيب donc maintenant on va juste lire le hadith de Jabir ibn Abdullah dans lequel on a les règles, ou les plus importantes règles du pèlerinage. Donc l'auteur a cité, de manière résumée malgré tout, le hadith, qui est un hadith qui est long, le hadith de Jabir ibn Abdullah, parce qu'on a dans ce hadith la description du pèlerinage qu'a fait le prophète, alayhi salat wa salam, du début à la fin. فهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين مكث في المدينة تسع سنين لم يحج في هذه السنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام جاء الناس كلهم ليحجوا معه ولي قال في الحديث ويعمل مثل عمله فخرجنا قال جابر فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة الميقات المشهور لأهل المدينة ذو الحليفة فولدت أسماء بنت عميس ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر كانت في هذا الوقت زوجة لأبي بكر فولدت له ابنه اسمه محمد ابن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله أي أرسل أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع وهي قد ولدت كيف أصنع قالت كيف أصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد وهناك ذكر كلمة التوحيد في حديث صحيح قال جابر أهل بماذا؟ بالتوحيد خلافا لمن زعم أهل البدع الذين قالوا كلمة التوحيد يعني محدثة ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على وجود هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به الناس أهلوا بالذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته دونك الحديث rapporté par l'imam مسلم authentique de Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam il était resté à Al-Médina durant 9 ans et durant ces 9 années il n'a pas fait le pèlerinage car Allah tabaraka wa ta'ala ne l'avait pas encore rendu obligatoire Allah ne l'avait pas encore ordonné de le faire puis la 10e année qu'est-ce qu'il a fait il a ordonné à ce qu'on proclame et qu'on déclare que cette année-là, c'est-à-dire Al-Ashira, le prophète allait faire le pèlerinage. Hein? Et donc les gens, quand ils ont entendu ça, ils sont venus de toutes parts. Les musulmans, les croyants, sont tous rendus, voyez, afin de faire le pèlerinage avec lui. Pour voir justement comment faire le pèlerinage pour apprendre les rites du pèlerinage avec le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam et pour faire ce qu'il fait Donc il a dit, Jabir, nous sommes donc sortis avec lui jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa, c'est un miqat. C'est un miqat, c'est un endroit où la personne va mettre l'intention de l'ihram. D'accord ? Elle va commencer à faire al-talbiya, ce qu'on appelle al-talbiya. Mais à ce moment-là, une épouse de Abu Bakr, qui s'appelle Asma bint Umays, a accouché de leur enfant, qui est Muhammad ibn Abi Bakr. D'accord ? Elle a accouché de son enfant. Donc elle ne savait pas comment faire. Est-ce qu'elle peut faire le pèlerinage ou pas ? Est-ce qu'elle a le droit de se mettre en état d'ihram ou pas ? Donc elle a envoyé son mari, Abu Bakr, poser la question au prophète, qu'est-ce que je dois faire ? Et le prophète de répondre, Ikhtasili, lave-toi. D'accord ? Lave-toi. Donc là, c'est pour alléger son état de nifas, d'accord, de logis, après l'accouchement. Ça n'enlève pas son état de nifas, ça n'enlève pas totalement, mais ça l'allège. Ça l'allège. C'est comme celui qui a un état de janaba, il dit bien, avant de dormir, il fait el wudu. Même s'il ne fait pas le ghusl, il fait le wudu pour alléger son état de janaba. Et il dort comme ça. Il fait le ghusl à son réveil. Mais el wudu, en vérité, ça n'enlève pas son état de janaba. Il ne peut pas prier tant qu'il n'a pas fait le ghusl. El muhim, il lui a dit, lave-toi. Et protège-toi avec un tissu, yani. Un tissu. Mais un tissu pour éviter que yani, ça, le sang continue de couler. Hein. Donc protège-toi avec un tissu. Mets un tissu sur tes parties et attache-le bien. D'accord ? Ou ahrimi. Et ahrimi, c'est-à-dire mets l'intention de l'ihram. Et tu peux faire tel biya. Comme tout le monde. D'ailleurs. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, par la suite a prié dans la mosquée, hein, donc a fait Al-Halaifa, puis il est monté sur sa chamelle qui s'appelait Al-Qaswa, qu'il a appelé Al-Qaswa, jusqu'à ce qu'il soit arrivé sur. Un endroit entre deux montagnes, et il a commencé à faire ce qu'on appelle ici At-Talbiya. D'accord ? Il a dit ici Jabir Ahalla bit-Tawhid. Donc il a commencé à dire à voix haute, il dit At-Tawhid. D'accord ? Donc là on voit que Tawhid était un terme employé déjà à l'époque ou du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un mot qui a été inventé. Des siècles après qu'on prétendrait ou qu'on prétende certains innovateurs. D'accord ? Donc on le retrouve ce mot-là dans plusieurs textes de prophétiques et autres. Prophétiques, là. Et parmi les paroles des Sahaba. Ahalla bit-tawhid. Donc talbiya, c'est le fait de dire labbaik Allahumma labbaik. Yani, je réponds à ton appel, réponse après réponse. J'obéis. Il répond à ton ordre. Labbayk la sharika lak, labbayk. Je réponds et tu n'as pas d'associé. Tu n'as aucun associé. Donc cette talbiya, en fait, elle souligne Tawhid, bien sûr, notamment parce que al-mushrikoun à l'époque, quand ils faisaient Tawaf et tout, pour Kaaba, même dans leur talbiya, il y avait du shirk. Hein? Même dans leur talbiya, il y avait du shirk. Ils donnaient un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, la talbiya que leur a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, ici on a tawhid. La sharika lak. La sharika lak. Tu n'as pas d'associé. Inna alhamda wa ni'mata lak. Toute la louange, tous les bienfaits t'appartiennent. Ainsi que la royauté. La sharika lak. Il faut savoir aussi que les sahaba, certains, proclamaient une telbiya différente de celle-là. D'accord? Dans laquelle il y avait aussi le tawhid, bien sûr, l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, la réponse à Allah, mais il y avait des mots qu'il rajoutait, des versions différentes de la talbiya. Mais malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas repris. D'accord? Ne les a pas repris. C'est pour ça que les versions des sahaba ont été rapportées donc, par les gens du hadith et les salafs. Tu as le droit de les faire. Tu as le droit de faire la version de la talbiya des sahaba. Mais la meilleure reste quand même celle des nabi alayhi salatu wassalam. Il dit ici, Jabir, que le prophète yani, a toujours fait la talbiya qu'il a enseignée aux gens, c'est-à-dire celle-ci. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة أي قبل الإسلام لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استسلم الركن فطاف سبعا طاف بالكعبة سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل وعليك السلام ورحمة الله فجعل المقام أي مقام إبراهيم بينه وبين البيت فأنت سنة تصلي وأن تجعل مقام إبراهيم بينك وبين البيت طيب وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله طيب اللي خيركم في الحج بيرسون في الحج في الحج فتحي طيب كم ça vous pourrez nous expliquer ça OK dit Jabir Lesna nanoui illa al-hajj. C'est-à-dire avant l'islam, les polythéistes, vous savez, faisaient le pèlerinage à leur façon. Et il dit que quand ils faisaient le pèlerinage, ils n'ont jamais émis l'intention de la umra. Ils ont toujours mis l'intention du pèlerinage, c'est tout. D'ailleurs, et ils ne connaissaient pas la umra. Pour eux, la umra, ils savaient qu'il y avait une umra, mais la umra pour eux ne pouvait pas être faite durant les mois du hajj. D'accord? Ils croyaient que la umra ne pouvait se faire que en dehors des mois du hajj, pendant Ramadan, mathalan. Ou enfin, le mois de Ramadan n'est pas le rite n'existait pas déjà encore. Et les mois du hajj, c'est lesquels les frères les mois du hajj? Bien sûr, non, Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. C'est les mois du Hajj. Les mois du Hajj, Shawwal, Dhul-Qi'dah, et les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Il faut savoir que durant ce temps-là, ils pensaient qu'il était interdit de faire l'Umra. C'est pour ça qu'il dit ça à Jabir ici. Puis il dit, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la maison d'Allah, avec lui, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est allé toucher un rukn, l'angle, un des angles de la Kaaba, qui est l'angle ici où il y a al-hajar, al-aswad, la pierre noire. Donc le premier angle vers lequel tu te rends, et la sunna, c'est de toucher cette pierre-là, dès que tu arrives. Et puis il a fait al-tawaf, il a tourné, il a fait 7 tours. D'accord ? Il a fait 7 tours. Faramana thalatha. رمل ثلاثا. فالرمل هو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. Donc durant les trois premiers tours, il est bien de faire ce qu'on appelle ramal. Ramal, le fait de se dépêcher quand tu marches. Comment?
Une petite foulée.
Une petite foulée. C'est pas courir, mais c'est marcher vite, quoi. Marcher vite. Hein? L'umra, c'est possible. Mais le hajj, c'est un peu compliqué. Mais non, tu peux marcher vite. Trois premiers tours, si tu peux. D'accord ? Ma'a muqarabati al-khuta. En faisant en sorte que tes pas soient rapprochés. En faisant des pas rapprochés. D'accord ? Wa masha arba'a. Et les quatre derniers tours, en marchant normalement. Taïm ? Ça, il faut savoir que cette sunna, on l'a fait que durant le tawaf de l'Qudum. Donc le premier tawaf, quand tu arrives. Et tawaf l'umra. Et tawaf l'umra. Alors que les autres tawaf, tu ne fais pas cette sunna. Ifada, etc. Tu ne fais pas. D'accord ? Puis j'ai thumma nafada ila maqam Ibrahim. Dès qu'il a fini les sept tours, qu'est-ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Il est parti à ce qu'on appelle maqab Ibrahim. Et en y allant, il a lu le verset d'Allah, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Et prenez maqam d'Ibrahim comme lieu de prière, musalla. Il a lu ce verset. Et il y a prié deux raka'at, c'est-à-dire qu'il a prié en direction de la Kaaba, et entre lui et la Kaaba, il y avait maqam Ibrahim. D'accord ? Donc, هذا وَالسُنَّة. Et il a été rapporté dans une version de hadith qu'il a lu dans la première raka'a, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, et dans la deuxième, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
C'est vrai par rapport à la sutra, dans le sens que tu peux laisser passer les gens devant toi.
Allahu a'lam. Allahu a'lam. Le muhim, c'est selon فَتَقُمَا مَسْتَتَعْتُ. Prenez Allah comme vous pouvez. C'est-à-dire, si tu as un pilier, tu pries derrière le pilier. Après, c'est toi, si tu pries derrière une personne et que la personne s'en va, tu vas faire quoi? Tu restes là où tu pries. T'as vu? Par contre, s'il y a une personne qui vient et qui veut passer devant toi, yani, devant toi, c'est entre toi et là où tu poses ton front, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses passer? Non, tu l'empêches de passer. Parce que là, tu restes là où tu
vas. Hein?
Non, tu fais ça. De là. T'as vu?
Si tu passes, c'est lui qui a le péché?
Bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est celui qui passe entre toi et l'endroit. S'il passe à 2 mètres de toi, tu fais rien. Il a le droit de passer. Il a le droit, lui, de passer.
Il y en a pour eux, il n'y a pas de.
Non, mais toi, le passage, je ne sais pas si. Par exemple, je suis en train de prier. Si toi, tu passes là,
bien loin.
Aucun problème.
Il y en a, ils passent devant toi, et tu leur mets la main, tu enlèves la main, ils continuent, tu pars, tu fais la prière. Bah, parce que peut-être qu'ils ont pris la vue que. C'est... Je ne sais pas, il y a peut-être plusieurs
raisons. Non, parce que c'est. Là, ils prendront le péché. Tu vois. Attendez. Puis, après avoir fait ces deux raka'at, il est retourné à l'angle où il y a la pierre noire et il a touché. D'accord. La pierre noire, c'est pareil, ça c'est une sunna. Donc si tu ne peux pas la toucher parce qu'il y a trop de monde, de loin tu fais ça. D'accord. Tu me montres la pierre noire avec ta main. Classe. D'accord. Puis, il est parti en direction les sorties de la porte, qui mène vers As-Safa, hein, qui mène vers le mont As-Safa. Et en s'en rapprochant de As-Safa, il a lu le verset d'Allah, Inna Safa wal Marwata min sha'a'irillah. Certes, Safa et Al-Marwa font partie des endroits, des rites d'Allah tabarak wa ta'ala. Abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Fabada'a bis Safa, faraqiya alayhi. Hatta ra'a al-bayt. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وحد الله أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبره أي قال الله أكبر وقال بعد ذلك بعد التوحيد وبعد التكبير قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر طواف على المروة آخر الطواف على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله عليه الصلاة والسلام أصابعه شبكها واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد بل لأبد أبد Puis, donc, en allant vers As-Safa, il a lu le verset qu'on a dit, et il a dit, je commence parce que Allah, il a commencé. Dans le verset, Allah, il a commencé par As-Safa. Inna As-Safa wal Marwata. Donc, tu commences tes sept allers-retours, là, hein? Tu commences donc par As-Safa, parce qu'Allah, il a commencé par As-Safa. Et il est monté sur As-Safa jusqu'à ce que il pouvait voir la maison d'Allah, Al-Kaaba. D'accord? Il est monté assez haut pour pouvoir voir la Kaaba. Une fois donc qu'il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers elle et il a fait ce qu'on appelle Tawhid. Il a dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Il a fait Takbir, Allahu Akbar. Et il a dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده La fin, Anis, il dit Allah جل وعلا, c'est lui qui a أنجز وعده, qui a donc honoré sa promesse, qui a sauvé son serviteur et qui a vaincu l'Ahzab à lui tout seul. Puis par la suite, entre chaque invocation, donc il a répété ces choses-là trois fois, et entre chaque invocation, il invoquait Allah, il demandait à Allah tabarak wa ta'ala des choses. D'accord? Donc il fait ça trois fois, et entre chaque fois, tu invoques Allah tabarak wa ta'ala par les demandes que tu veux. Après cela, il est descendu de As-Safa. Et il est parti en marchant vers Al-Marwa. jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Donc tu descends, pour ceux qui l'ont fait, tu descends de As-Safa, donc ça descend, et arrivé tout en bas, il est bien de faire ce qu'on appelle ici sa'i, d'accélérer le pas. Aujourd'hui, ils ont mis, je crois, des lumières vertes là, qui te délimitent en fait l'endroit où il est recommandé d'accélérer. D'accord ? Donc, arrivé à cet endroit, tu accélères jusqu'à ce que donc tu arrives à Al-Marwa. Une fois que tu es monté, eh bien, tu remarches normalement jusqu'à ce que tu arrives à Al-Marwa. Et tu fais sur Al-Marwa la même chose que tu as fait sur As-Safa. Exactement la même chose. Tu montes dessus jusqu'à ce que tu vois Al-Kaaba. Tu te tournes vers elle et tu fais les invocations comme tu l'as fait sur As-Safa. Taïeb. Et jusqu'à donc ce que tu aies terminé, une fois que tu as fini, tu redescends. Tu retournes à As-Safa. Et ainsi de suite. Tu fais donc 7, tu dois faire 7 allers-retours. C'est-à-dire que de Safa à Al-Marwa, ça fait 1. De Al-Marwa à Safa, ça fait 2. D'accord ? C'est comme ça qu'on compte. Donc du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu finis où ? Tu finis à ? Là, tu finis pas à Safa. Safa, il est là. Là, il y a Al-Marwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu finis là. Tu finis le Marwa. D'accord ? Donc, la fin des 7, là, tu dois te trouver à Al-Marwa. Taïeb ? Sinon, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as oublié quelque chose, d'accord ? Ou rajouter quelque chose, peut-être aussi. Ça peut arriver, hein ? Voilà. Taïeb. Et là, qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Si je pouvais changer. Il y a entre guillemets dans le sens de la parole du prophète. Si je pouvais changer quelque chose, je n'aurais pas amené mon offrande, l'hadi, la bête à sacrifier. Et j'aurais fait de ce qu'on vient de faire là, une umrah. Comme ça, il y a plusieurs façons de faire le hajj. D'accord ? Et il dit ici que si j'avais su, j'aurais pas amené mon offrande pour faire en sorte que ce soit une umrah. Pourquoi ? Parce que si toi tu mets l'intention de l'umrah, tu peux sortir de l'état d'ihram à ce moment-là. D'accord ? Et du coup, tu peux aller avec ton épouse, tu peux te parfumer, etc., etc. Toutes les choses qui t'étaient interdites à la base redeviennent licites, puis tu te remettras plus tard en état d'ihram pour le hajj. Mais là, lui, il est venu avec une offrande, donc il n'avait pas le droit de sortir du ihram. Il était dans l'obligation de rester dans l'état d'ihram jusqu'à la fin. Mais il dit, si j'avais su, je n'aurais pas amené du coup mon offrande. D'accord ? Donc celui parmi vous qui n'a pas d'offrande, il a dit. Donc celui parmi vous qui n'a pas amené des hadiths d'offrande, il dit, faliyahil. Qu'il sorte de l'état d'ihram et qu'il fasse de ce qu'il vient de faire une umrah. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour la personne. Hein ? Plus facile pour toi, tu sors de l'état d'ihram. Après, tu ne fais qu'à tes occupations, alhamdulillah. C'est plus léger. D'accord ? Non. Et là, Suraqa, un compagnon, Suraqa ibn Malik, ibn Ju'shum, il a dit, ô messager d'Allah, est-ce que ce que tu viens de dire, concerne seulement l'année dans laquelle nous nous trouvons, ou est-ce que ça vaut pour toutes les années ? Est-ce que c'est mieux pour nous, du coup, tous les ans, de ne pas amener l'offrande et de faire en sorte de faire l'umrah puis de sortir de l'état des haram pour rentrer par la suite. Et là le prophète doit lui répondre en entrecroisant ses doigts les uns avec les autres et il a dit la umrah entre dans le hajj, il a dit ça deux fois, hein, puis il a dit oui au contraire cela vaut pour tout le temps. D'accord ? L'abad, pour tout le temps, c'est pas que pour cette année là mais pour tout le temps. وقدم علي أي ابن أبي طالب من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل فوجد فاطمة أي زوجته فاطمة ممن حل قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. إن أبي أي رسول الله أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها. قال علي أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، أي فاطمة. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم قصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. طيب donc on continue. Il dit ici, puis Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu est revenu du Yémen avec des bêtes, avec des bêtes, des chameaux appartenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a retrouvé son épouse Fatima, la fille du prophète Fatima alayhi salatu wassalam, et il a vu donc qu'elle était sortie de l'état d'ihram, comme ceux qui n'avaient pas d'offrande avec eux. Et donc, elle a pu mettre des habits qui ne sont pas permis à la base pour quelqu'un qui est en état d'ihram. Elle a mis du kuhl, qui à la base est interdit pour celui qui est en état d'ihram. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc, lui, il ne savait pas parce qu'il n'était pas là. Et il a blâmé cela. Il a dit, comment ça se fait que tu es en état de... que tu n'es pas en état d'ihram? Elle a dit, c'est mon père qui m'a ordonné ça. C'est mon père qui m'a dit de faire ça. Alors, il a dit, allez, je suis parti voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, croyant toujours qu'il était dans le vrai. D'accord? Croyant toujours qu'il était dans le vrai. Donc, il est parti voir le prophète, en se disant, le prophète, il va la gronder. Il va gronder sa fille. D'accord? Par rapport à ce qu'elle a fait. Moustaftiyan kathalik, pour avoir aussi un éclaircissement par rapport à ce qu'elle a dit. Puis elle a dit, j'en ai informé le prophète et je lui ai dit que j'avais réprouvé cela, que j'avais condamné cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire sadaqat sadaqat. Elle a dit la vérité, elle a dit la vérité. Hein? Puis il a demandé à Ali, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit quand tu as fait l'état de l'ihram? Il a dit, j'ai dit, oh Allah, je me mets en état d'ihram parce que ton messager s'est mis en état d'ihram. C'est-à-dire, je fais la même chose que toi, ya Rasulullah. D'accord? Donc, le prophète de lui dire, moi j'avais avec moi une offrande, donc je n'avais pas le droit de sortir de l'état d'ihram. D'accord? Donc, tous ceux, فَكَانَ جَمَعَةِ الْهَدِي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِي مِنْ الْيَمَنِ. Donc, Ali lui est venu avec des offrandes et tout avec lui. Vous voyez? Et il faut savoir qu'il y avait donc 100 bêtes, d'accord, 100 chameaux avec lesquels qui appartenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, hormis eux, tous ceux qui n'avaient pas d'offrande, du coup, ils sont tous sortis de leur état, de l'ihram. Et donc, ils ont raccourci leurs cheveux, etc. Sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car encore une fois, il avait avec lui une offrande. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ وَيَوْمُ التَّرْوِيَّةِ هُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يوم التروية. توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. الآن دخلوا في الإحرام مرة ثانية للحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، والنمرة موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات، نمرة ليست من عرفات لكن موضع بجنب عرفات. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وهو وادي عرنة، وادي عرنة يحد عرفة من الجهة الغربية وليس من عرفة كذلك، ليس من عرفة. فخطب الناس، فخطب الناس بخطبته المعروفة المشهورة، خطبة الوداع. Puis il dit, lorsque le jour de Tarwiyah est arrivé, donc le jour de Tarwiyah, c'est le huitième jour du mois de l'Hijjah, d'accord? Le huitième jour de l'Hijjah, on l'appelle Yawm Tarwiyah, parce que c'est le jour où les gens vont stocker de l'eau, aller chercher de l'eau, donner de l'eau à leur monture, etc., etc. On l'appelle comme ça Yawm Tarwiyah. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont rentrés dans l'état de Ihram. Donc une seconde fois ici. Après être sortis de l'état de Ihram, ils sont rentrés à ce moment-là, le huitième jour, et se sont dirigés vers Mina. Le prophète, lui, alayhi salatu wassalam, est remonté donc sur sa monture, et il a prié à Mina les cinq prières. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. Puis il y est resté un petit moment jusqu'à ce que le soleil soit levé. Donc il a prié Al-Fajr, il est resté à cet endroit-là jusqu'à Shuruq, Tulu' al-Shams. D'accord? Et il a ordonné à ce qu'on lui installe une Qubba, une tente, une tente faite de peau, à un endroit qu'on appelle Namira. Namira, c'est un endroit, vous connaissez sûrement, hein, il y a une mosquée là-bas de Namira, qui est proche de Arafat, proche de Arafat, mais qui ne fait pas partie de Arafat. D'accord? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est rendu à Namira. Naam. Et Quraysh croyait qu'il allait s'arrêter à Muzdalifa. Parce que c'est ça qu'il faisait à l'époque pré-islamique. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait à ce moment-là à Al-Muzdalifa. Et il pensait que, de façon certaine, que le prophète allait s'arrêter, qu'il allait faire une halte. Mais il ne l'a pas fait. Bel jawaza. Jawaza al-Muzdalifa. Walam yaqif biha. Walam yaqif biha. Donc il a dépassé al-Muzdalifa et il ne s'est pas arrêté comme croyait Quraysh. Vous voyez? jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Arafat. Et il a vu donc qu'on a installé à Namira la tente qu'il avait demandée, alhamdulillah. Et il est resté dans cette tente-là jusqu'à ce que le soleil qad zarat, c'est-à-dire a commencé à décliner vers l'ouest. Hein, le soleil, au milieu de la journée, il est au zénith. Et après que le zénith, après que le soleil ait quitté son zénith, eh bien, il a ordonné qu'on lui amène sa monture, sa chamelle, al-qaswa. On lui a amené al-qaswa, et là, il est parti avec al-qaswa jusqu'à Batn al-Wadi, jusqu'à un endroit qu'on appelle Batn al-Wadi. C'est une vallée qui est la vallée de Urana, qui est proche de Arafat, mais qui ne fait pas partie non plus de Arafat, ni cette vallée, ni Namira. D'accord ? Et à ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un discours qui est connu de tous aujourd'hui, qui est le discours d'adieu. D'accord ? Le discours d'adieu. وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع متروك ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولهن عليكم ماذا الرزق الكسوة بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها وينكتها إلى الناس هكذا اللهم اشهد ثلاث مرات اللهم اشهد ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام dans son discours? Déjà, Allahu Akbar. Je pensais qu'on allait finir le hadith. On n'a même pas fini. On est à la moitié. Non, même. On a fait plus que la moitié quand même. Et on finira la semaine prochaine, Inch'Allah. Il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son discours: votre sang, vos biens sont sacrés. Comme l'est votre jour-ci. C'est-à-dire, il vous est interdit de porter atteinte à l'intégrité physique des gens ainsi qu'à leurs biens, car ils sont sacrés. Comme ce jour-là est sacré, D'accord ? Durant ce mois-ci, qui est le mois de Dhul-Hijja, dans cette contrée qui est Mecca. Puis il dit toute chose qui faisait partie des choses de la jahiliya pré-islamique, tahta qadamay, elles sont sous mes deux pieds, mawdoua, c'est-à-dire délaissées. À partir de maintenant, on délaisse tout ce qui faisait partie de l'époque pré-islamique, et parmi ces choses-là, dima ou jahiliya, le prix du sang. Le prix du sang que certains devaient à l'époque pré-islamique, eh bien, on les abandonne. Et le premier sang qui est abandonné parmi les gens qui font partie des nôtres, il dit par rapport au fils de Rabi'a ibn al-Harith. Le fils de Rabi'a ibn al-Harith, qui était enfant, donc c'était un enfant, et qui était allaité dans la tribu de Bani Sa'd. Comme vous savez, les Arabes avaient l'habitude de faire allaiter leurs enfants chez des nourrices, etc. Cet enfant-là, il était allaité chez la tribu de Bani Sa'd. Et Bani Sa'd, à l'époque, ils étaient en guerre avec la tribu de Hudayl. Ils étaient en guerre. Donc, il y avait des jets de pierre, des combats, etc. Des luttes. Cet enfant-là, il était dans la rue et il marchait. Il marchait à quatre pattes et il s'est pris une pierre. Il s'est pris une pierre et il est mort. Donc du coup, Hudayl devait payer le prix du sang par rapport à cet enfant-là. Donc il a dit, le premier sang qu'on va abandonner à les poursuites, etc., eh bien, ce sera le sien. D'accord ? On efface tout. Puis il a dit également tout ce qui est intérêt usuraire de la jahiliya sont effacés aussi. On n'en parle plus. D'accord ? Et le premier intérêt usuraire qu'ils ont abandonné, eh bien, c'est celui d'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Donc, toutes ces choses-là sont abandonnées. On n'en parle plus. Effacées. Craignez donc Allah tabarak wa ta'ala. Par la suite, il a parlé en faveur des femmes. Fattakullaha fil nisa. Regardez, subhanallah. Sur quoi il a insisté ? Il a insisté sur le droit des femmes. Fattakullaha fil nisa. Craignez Allah. Par rapport à vos épouses. فَإِنَّكُمْ أَخَثْتُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. Vous les avez prises dans l'amanatillah, dans certaines versions, amanillah. L'amana, c'est un dépôt, yani tu as des responsabilités, des obligations. Quand tu les as prises avec les obligations et les responsabilités qui pèsent sur ton dos. Donc attention. Et vous avez le droit donc d'avoir des rapports avec elles. Bikalimatillah. Par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Qui sont zawajtuka fulana. Lorsque le tuteur de la femme te dit je te marie une telle, et que tu dis qabilt. J'accepte. Bismillah, ala sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. À travers ces paroles-là, Allah jalla wa ala te rend licite cette personne. Puis il dit, voilà quoi. Mais elles aussi, elles ont des obligations qui pèsent sur elles, qui est le fait de ne pas faire entrer chez toi ce que tu ne veux pas, ce que tu détestes. D'accord ? Elle n'a pas le droit de faire rien. Non, j'ai entendu. Elle n'a pas le droit de faire entrer chez toi des gens que tu détestes. Si elles font cela, fadribuhunna darban ghayr mubarrah. Si elles font ça, fadribuhunna, tape-les. Mais d'une tape qui n'est pas mubarrah, qui ne fait pas mal. C'est pas un coup qui fait mal ou qui blesse. Qui laisse des traces, na'am, ou qui humilie la personne. Non. Certains salafs, ils ont dit avec un siwak. Un petit siwak. D'ailleurs, je la pose comme ça que si, ouais. Tu la plantes avec le siwak. D'ailleurs, t'inquiète pas, elle aura pas mal. D'accord ? Sauf si tu l'as aiguisé. Pointu. Le frère a dit siwak. Qu'est-ce qu'il a ? D'ailleurs. Hein ? Regardez, subhanallah. Le hadith, il est clair. Darban ghayra mubarrah. Après, il te dit, ouais, l'islam. Mais il a... rabaisse la femme elle est humiliée devant l'homme. C'est pareil pour les enfants. Hein. Les enfants, c'est pareil. Tu n'as pas le droit de frapper un enfant pour le faire mal. Hein. Et les obligations qui pèsent sur toi par rapport à elles aussi, comme on a dit, le fait de subvenir à leurs besoins, les nourrir, les habiller, etc. En fonction de ce dont elle a besoin. Puis il a dit, et je vous ai laissé parmi vous une chose, que si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Et cette chose-là, c'est le livre d'Allah. Et vous serez interrogés sur moi. C'est-à-dire, vous aurez des comptes à rendre. Pourquoi ? Parce que j'ai transmis. Qu'est-ce que vous direz donc ? Ils ont dit, nous témoignons que tu as transmis, hein, et que tu as respecté ton devoir, ton obligation, et que tu as conseillé. Ils ont attesté, alhamdoulilah. Et là, il a levé son index, il a levé vers le ciel, et il a remué en direction des gens, et il a dit, oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne de ce qu'ils ont témoigné. Vous avez témoigné ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à Allah, il a dit, oh Allah, témoigne de ce qu'ils ont témoigné. On est tous témoins. Il a répété 3 fois. Puis Bilal a fait l'adhan. Et là, se sont levés et ils ont prié. Et il a prié. Salat al-Dhuhr. Puis l'Asr. Et entre les deux, ils n'ont prié aucune prière. C'est-à-dire qu'entre al-Dhuhr et l'Asr, à ce moment-là, tu ne fais pas de prière facultative. Ni darawati, ni rien. Tu les raccourcis, tu fais 2 unités dhuhr, et tu fais 2 unités al-asr. Et entre les deux, tu ne fais pas. D'accord ? Il n'y a qu'un seul adhan. Il n'y a qu'un seul adhan, comme l'a fait Bilal. Naam. Inch'Allah, naktafi bihada. Alhamdulillah. Fa nashhadu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Allah.